tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, un tout nouveau rendez-vous, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, Franchir les frontières, 4 histoires de passage. Au départ de cette série, il y a une utopie, l'envie d'aller et venir, de décider soi-même où l'on va, prendre un train, traverser une forêt et tout simplement se retrouver de l'autre côté. Laisser derrière soi la guerre, la peur et aussi sa maison et sa famille. Mais pour les privilégiés, les frontières sont de simples formalités, des lignes imaginaires qui traversent des cols, des mers ou des chemins et qui racontent notre histoire. Des lignes qui nous séparent autant qu'elles nous rapprochent. Pour commencer, les personnages, des derviches tourneurs qui viennent de la banlieue de Damas, des musiciens égyptiens, des poètes du Rajasthan qui scandent au son de la vielle, des tourneurs, des producteurs et de scrupuleux fonctionnaires de la République. Ensuite, le décor. Des petites salles de concert, des brasseries, des restaurants, des tournées sur la route, des coulisses, des couloirs d'administration, des portes derrière lesquelles on appose des tampons. Aujourd'hui, deuxième épisode, visa pour jouer, comment on a partagé les tracasseries administratives des musiciens qui viennent jouer en France, un documentaire de Charlotte Rouault et Benoît Bory, réalisé par Christine Robert. On est en France, à Paris et en province, entre deux concerts. On est allé écouter ceux qui, pour faire sonner ailleurs leurs instruments, attendent trop longtemps des visas.
Paris,
La tournée la plus rock'n'roll, ça a été des visas pour le groupe d'Asif Ali Khan au Pakistan en 2008.
La chapelle ?
On avait une tournée d'une dizaine de dates en Europe et le chanteur, leader du groupe, perd son passeport avec le visa une semaine avant le départ. Donc en une semaine, on a dû tout activer. On a eu quand même beaucoup de soutien au niveau de l'ambassade du Pakistan à Paris, qui a contacté le service Asie au Quai d'Orsay. Donc là, on a bougé effectivement tout le monde, on a frappé à toutes les portes. N'ayant pas pu obtenir un visa Schengen au départ du Pakistan, il a fallu demander un visa à chaque pays concerné par la tournée. Autriche, Italie, Benelux, il y avait la Slovénie aussi. On a testé la tournée sans Schengen, sans les visas Schengen. C'est laborieux et c'est très cher parce qu'il faut payer chaque visa séparément. Donc oui, c'était une sacrée épreuve. Visa pour jouer.
There are many Tamil Indian, no? Indian restaurant, many in La Chapelle.
Yes, La Chapelle, yes.
La Chapelle.
Stalingrad.
Studio, man.
Barbas.
La Villette.
La Villette, tu me rukas, Jor me rukas, tu marches.
Un documentaire de Charlotte Rouault, Benoît Bory et Christine Robert.
Moi je suis Jean-Hervé Vidal, donc je suis le responsable de Zaman Productions.
Vous avez un refus de réservation ?
Depuis maintenant une dizaine d'années.
Hello Katu, how are you ?
Voilà, you're Thailand. Long trip, hein ? Hello !
Bonjour, Mr. Jean-Hervé Vidal ! How are you ?
How are you ?
Very good.
Welcome.
Nice to see you, nice to see you, India. Welcome, India, welcome.
Ben moi, c'est Mounet. Je suis chargée de production à Zaman. C'est moi qui m'occupe des contrats et de la logistique, l'accueil des artistes. Voilà. Je suis en relation avec tout le monde à partir du moment où le contrat est, où la vente est conclue. Je m'occupe de tout le reste.
Village Jean-Hervé, voilà, c'est là, tout est là. C'est mon nom.
C'était
mon
nom de Jean-Hervé Vidal.
Oui, parfait.
You want passport?
Moi, j'ai toujours été intéressé en fait par les musiques du monde. J'ai toujours écouté en fait des musiques de tradition, des musiques de patrimoine. Voilà, ça fait partie un peu d'un héritage familial, culturel. J'ai rencontré Alain Weber et on a créé une production, Zaman Production, une production organisatrice de concerts et d'événements autour de ces thématiques. Ce qui nous intéresse dans ce travail, la motivation, c'est effectivement de diffuser ces artistes pour encourager la transmission de ces traditions dans les pays d'origine. On se rend compte aujourd'hui qu'avec la mondialisation, ces traditions, malheureusement, ont tendance à vraiment disparaître. Donc, ils ont d'ailleurs souvent disparu dans des pays, en Inde, en Afrique du Nord, etc. On a le sentiment de faire un travail un peu de sauvegarde de ces patrimoines, en les diffusant, en les faisant connaître auprès des publics français, auprès des publics européens et dans le monde. Parce qu'on sait pertinemment que a posteriori, après le retour des artistes, après ces tournées, il y a ça les encourage au niveau local. Il y a un effet d'encouragement chez les jeunes, notamment. On est un peu comme des galeristes, en fait, un peu, mais des galeristes de musique, quoi, de musique de différents coins du monde.
Oui, parce qu'on est dans des musiques traditionnelles, orales. Le vecteur de ces traditions, c'est le live, on va dire. Et pour certaines musiques, elles ne sont presque plus jouées dans leur pays, dans le contexte habituel, parce qu'on est passé à la sono, parce qu'on est passé à d'autres modes de diffusion de ces musiques-là. Et finalement, oui, c'est un peu de la préservation de traditions, d'offrir l'occasion de se produire à ces groupes en Europe, dans un autre contexte où les gens sont encore à la découverte de ces musiques et de ces traditions. Alors que chez eux, voilà, ça peut être un peu passé de mode. Mais les artistes sont là. Le patrimoine existe encore et il y a encore des passeurs. Donc voilà, c'est un peu l'occasion pour eux de continuer cette transmission.
Je suis donc Alain Weber, je vis dans l'univers des musiques du monde depuis un certain temps, j'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine, mais à l'heure actuelle je suis conseiller musical pour les musiques du monde à la Philharmonie et à la Cité de la Musique, et je suis aussi le créateur d'une structure qui s'appelle Zaman Production, qui s'est spécialisée dans la tournée d'artistes traditionnels, dits de musique du monde. Ma vocation première était de défendre les musiques de tradition, c'est-à-dire les musiques de terrain, ce que j'appelle les musiques de terrain, où la musique a une fonction pas simplement esthétisante, mais véritablement une fonction musicale et sociale dans son environnement. Et moi, c'est un peu ma passion. Au début, quand j'ai démarré, c'était à la fin des années 70, avec le groupe des musiciens du Nil, donc se rappellent les aficionados de la musique de Haute-Égypte. Et c'est vrai que pour moi, c'était, il y avait un côté un peu militant, je dois dire, relativement un peu naïf, certes, mais qui était quand même celui de conserver ce rôle de musicien dans le cadre de sa structure, de son environnement, qui est à la fois quelqu'un qui est un barde, un poète généalogique, qui est un faiseur de mots, qui est aussi un musicien tout simplement, mais qui a toujours une fonction qui est toujours liée un peu au monde invisible. En tout cas, ce qui me fascinait plus, c'était l'image plus du musicien que de la musique elle-même. C'était un autre monde. Disons qu'en gros, historiquement parlant, il y a eu d'abord les années 60, les 60s, avec cet intérêt d'abord pour les musiques indiennes, Ravi Shankar, George Harrison, toute la période, on va dire, Beat Generation d'une part, et ensuite hippie, qui a fait qu'on s'est beaucoup intéressé aux musiques d'Orient. Donc il a commencé déjà, le premier contact s'est fait à travers beaucoup de musiciens indiens qui ont commencé à venir en Europe, en Occident, aux États-Unis, symbolisé un peu par Ravi Shankar. Et puis après, très vite, au début des années 70, s'est apparue cette notion aussi de sono mondial qui, à l'époque, était véhiculée par le journal Actuel, etc. Il y avait aussi Radio Nova qui arrivait beaucoup plus tard. Et ça a été aussi la découverte de la musique africaine. Mais beaucoup de régions du monde n'avaient absolument eu aucun contact avec ce type de demande, c'est-à-dire les musiciens traditionnels de beaucoup de pays, de la grande majorité des pays, n'avaient jamais eu ce type de demande qui était celle de les inviter dans un pays étranger. C'était le cas des musiciens du Nil qui vivent donc dans la région du Luxor, au sud de l'Égypte, et qui étaient évidemment totalement dans un univers relativement fermé. Il y avait un chanteur qui s'appelait Medkel Kenaoui, qui était relativement connu médiatiquement en Égypte parce qu'il avait eu accès aux enregistrements, aux disques, qui était une sorte de musicien traditionnel reconnu au Caire. Mais effectivement, quand on arrivait d'abord pour se présenter et pour demander à des musiciens de venir à l'étranger, c'était d'abord un effet de surprise totale de leur part, parce que d'abord, ils ne comprenaient pas très bien pourquoi on les invitait à l'étranger. Et pire, leur entourage ne le comprenait pas. Il faut savoir quand même que dans beaucoup de sociétés traditionnelles, que ce soit en Afrique ou en Orient, malgré tout, le musicien a un statut relativement marginalisé et défavorisé, donc de caste un peu inférieure. Donc la musique populaire, même si elle fait partie de la société, qu'elle a un rôle, elle n'est pas vraiment reconnue en tant que quelque chose de noble ou de valeur véritablement artistique. D'ailleurs, pour même dire, les musiciens du Nil, à l'époque, le mot « fan » en arabe, qui veut dire « art », n'existait pas. Ils s'appelaient pas eux-mêmes artistes. On dit les joueurs d'eux, celui qui joue du rabab, le rababadji, etc. C'est un peu plus une valeur artisanale et fonctionnelle que véritablement cette notion de l'art en tant qu'esthétique noble, etc. Donc, au début, il y a soit un intérêt, évidemment, une surprise et un intérêt, soit une crainte, très souvent une crainte. Donc, il fallait passer par un processus d'amitié, de bien connaître ces gens, de passer beaucoup de temps avec eux, comme j'ai eu l'occasion de le faire, pour gagner leur amitié, leur confiance, et ensuite pouvoir les inviter.
Voilà. Paris, I am. Program. This car. Car be it.
On va en déclarer. Welcome to Holocaust.
My bag.
Get up in London. Get up.
ये पंद्रह हो गया
जाओ जाओ सैयाम तुमसे तो ना ही बोलूंगी
ये पंद्रह है
जाओ जाओ सैयाम तुमसे तो ना ही बोलूंगी
वी आर लिविंग मोर देन दिल्ली 1100 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली
नू वी वोंट लॉन द दिल्ली
Very far.
À 1200 km.
We are just 70 km before Pakistan border.
À 70 km avant la frontière pakistanaise.
Very one corner. There big desert. There no more road and there.
C'est un endroit désert.
No light, no water.
We are from desert.
Desert.
Sand dune.
Only camel. Too much camel.
Il fait chaud. Il n'y a pas d'eau courante. Pas d'électricité.
Yeah, yeah.
Seulement des chameaux.
Long journey from village to Paris.
We come by Jaisalmer to. We come from village to Jodhpur by car. After we took flight from Jodhpur to Delhi, and after Delhi to Paris flight.
On est allé en voiture jusqu'à Jaipur, puis on a pris un avion pour Delhi.
And what are the
les sons au petit matin.
Sound is there, you know, whenever morning time, then birds is up.
Les oiseaux.
Very little birds. After cattle have
puis le bétail se réveille.
Cow, buffalo,
les vaches,
camel,
les donkey, chiens,
dog. If camel is going, horse. And that at that time some dog coming. Hello, hello. So it means so many voice coming, you know, like this. In that voice, some bird's voice was. So that all voice, you know, something going like this. Then very good morning, you know.
Il y a plein de sons le matin.
And some donkey also there.
Des petites chèvres, puis
and
des grosses.
Little goats. And some big goat coming, big goat.
La première fois que sont venus ces musiciens de Divana, ils étaient très à l'aise et ils ont fait la preuve d'une très grande forme de professionnalisme dans le sens musical et artistique.
You want one more microphone?
No. Monitor.
Please. Monitor for
one song. Here,
singing.
Okay.
Yeah. Okay.
For then.
Yes.
Put, is it possible there?
Maybe.
Because we you can't listen to.
Ouais.
Alors d'abord, le monde du Rajasthan, c'est un peu un monde à part. C'est un monde à part parce que c'est un monde qui, très tôt, a eu accès à l'Occident. Dès les années 70, ils ont commencé, quelques-uns d'entre eux ont commencé à venir. Ce sont des gens qui vont sur une scène, qui ont tout de suite analysé l'espace scénique, qui savent très bien utiliser les micros, se positionner, entrer sur scène, sortir. La première fois que certains d'entre eux viennent et qu'ils sont sous le, on peut dire, sous le feu des projecteurs, eh bien, ça leur pose absolument aucun problème. Ils vont même donner des conseils. Ce qui est étonnant, c'est leur grand professionnalisme. Voilà. C'est une grande leçon de professionnalisme. Et en fait, ce sont des gens qui sont très, très à l'aise. Très souvent, les gens disent, mais vous êtes fous, vous les faites venir de village, vous les mettez sur une scène, vous allez les déstabiliser. Pas du tout, parce que c'est leur métier, c'est leur vie de s'adresser aux gens. Là-bas, dans les villages, ils font plaisir aux gens, ils parlent à un tel, ils vont lui faire ses louanges, où tu es le plus grand, etc.
Des groupes sont vraiment différents d'un pays à l'autre, d'une tradition à l'autre. Les débats de Mayotte forment assez féminine en fait de la musique de Mayotte. Ensuite, il y a les musiques populaires traditionnelles du sud de l'Égypte qui sont plutôt des musiques de fête, de mariage dans un milieu social paysan. Traditionnel. Souvent, c'est une transmission qui se passe de père en fils. Dans ces musiques traditionnelles, il y a toujours des liens familiaux entre les musiciens. Donc, on n'a pas seulement un groupe de musique, mais une famille. Du coup, c'est particulier aussi, parce que quand ils partent en voyage, et des fois, on a le grand-père, le fils et le petit-fils. Pour certains artistes traditionnels, je pense notamment, moi, aux musiciens du Nil qui sont vraiment issus de milieux populaires, paysans, de Louxor, du sud de l'Égypte, Et quand ils montent au Caire pour préparer les visas, bah souvent les agents locaux, des consulats ou autres, se demandent ce qu'ils font là. Ils ne se rendent pas forcément compte que ces vieux musiciens ont fait trois fois le tour du monde. Allô? Allô, marhaba Adel.
Marhaba.
Kifak? Alhamdulillah. Wa antum libas? Hein? Chouma jdid. Les artistes qui n'ont pas l'habitude, on les coach. Par téléphone.
Inch'Allah khir, inch'Allah khir. Wa antum kifkom?
On suit à distance. Ah, dans certains pays, pour avoir des passeports, il faut des cartes d'identité. Mais parfois, pour faire les cartes d'identité, il y a besoin d'extrait de naissance. Et quand on travaille avec des artistes, par exemple du Burkina, l'état civil n'est pas forcément à jour. Donc il faut déjà pouvoir produire l'acte de naissance pour pouvoir faire la carte d'identité, pour pouvoir faire le passeport, etc. Puis il y a des fois, dans certains pays, il faut des autorisations de ministères, etc. Donc, si tout va bien, si les artistes ont leur passeport, on peut compter 3-4 mois pour la première étape, qui est celle d'obtenir les autorisations de travail.
Allô ? Oui, Adel.
D'un côté, il faut préparer les autorisations de travail, et de l'autre côté, il faut aussi anticiper, commencer à prendre les rendez-vous auprès des consulats. Parce que ça peut demander un mois, deux mois. Après, on transmet les documents aux artistes, qui, eux, ont leur temps de préparation aussi, parce qu'il faut aussi qu'ils puissent se libérer tous en même temps pour aller faire la demande de visa. Il faut qu'ils aient le temps aussi de préparer des documents de leur côté, qu'on leur demande. Souvent, on leur demande des livrets de famille, des attestations de la qualité d'artiste. Voilà. Donc, ils ont aussi des papiers administratifs à fournir de leur côté. Et puis, tout se regroupe petit à petit, peu avant la demande de visa. Ils ont le dossier complet, normalement. Disons un mois et demi avant le voyage pour faire la demande de visa.
Ok, merci. Yalla, salam lil kol ou les chabab kolhom ou entendre la soir men andek. Ba'dina tassal fik men jadid. Shukran Adel.
On parle du côté administratif en France ou en Europe, mais on ne parle pas du côté administratif local, qui est absolument effroyable, parce que la plupart des artistes traditionnels, je parle vraiment des artistes populaires, n'ont pas de papier d'identité, souvent, même pas de fiche d'état civil. Donc il faut, à l'époque, faire des passeports, c'était quelque chose très très compliqué. Les systèmes administratifs n'existaient pas comme aujourd'hui. Il n'y avait que certaines personnes privilégiées qui avaient accès aux passeports, c'est-à-dire les notaires, les gens lettrés, les fonctionnaires, etc. Donc déjà, l'obtention d'un passeport est une sorte de parcours du marathon invraisemblable. Il fallait monter à la région, il fallait monter au département de la région pour pouvoir obtenir les visas à la préfecture. Il y avait énormément de papiers, une grande méfiance de la part des autorités. Heureusement, moi, j'avais été aidé plus ou moins par le ministère de la Culture égyptien qui m'avait aidé. Et j'ai pu obtenir ces papiers, mais c'était quand même quelque chose de très ardu et très compliqué sur le plan administratif. Et c'était encore récemment, même en Inde, pour obtenir les passeports. C'est très long et très fastidieux quand on n'a pas d'accès, disons, un accès privilégié à certains réseaux administratifs. En plus, à l'époque où j'étais, ça peut paraître... je vais peut-être avoir l'impression de parler comme c'était il y a 100 ans... Ces pays se sont développés tardivement en termes de communication. Donc, il n'y avait quasiment pas le téléphone. Les gens n'avaient pas le téléphone chez eux. Il y avait plus ou moins le téléphone de l'épicier du coin qui ne marchait jamais. On passait même par un standard. Le fait que les gens puissent avoir des téléphones, des lignes internationales est venu beaucoup plus tard. Je ne parle pas du portable qui est venu lui aussi beaucoup plus tard. Et donc, les communications sont très difficiles. Par contre, paradoxalement, au niveau français, européen, c'était beaucoup plus facile d'avoir les passeports. Il n'y avait pas toutes ces procédures très complexes qui existent aujourd'hui et qui fait que maintenant, un individu seul est absolument incapable de pouvoir organiser lui-même la venue d'artistes. D'où la nécessité qui avait été pour moi à un moment de créer une maison de production comme Zaman. Parce que maintenant, le processus administratif s'est énormément augmenté au fil des années. Mais à cette époque, c'était relativement simple. Vous étiez, par exemple, invité par une maison de la culture de Amiens ou de je ne sais où. Une simple petite lettre d'invitation suffisait. L'obtention des visas était beaucoup plus facile. Sauf qu'il n'y avait pas le visa Schengen à l'époque, donc c'était des visas individuels pour chaque pays. Mais en grosso modo, il n'y avait pas cette méfiance et cette crainte qu'il y a aujourd'hui. Et il n'y avait pas cette crainte de l'immigration sauvage ou de illégale, etc.
Ok. Thank you. Je l'ai monté, okay. Ça y est, c'est fait. Ok. À nous.
1, 2, 3, 4,
5. C'est 5 ?
Là.
Non, le 2.
Tu
peux tourner ta tête à gauche.
Je suis en train de faire le Khair, le Cheikh, le Dimashq, le Dimashq.
Numéro
5.
Je suis Mounchid dans le groupe de M. Nourdine Khourshid de Damas. Je participe à ses concerts aussi bien en Syrie qu'à l'étranger.
يجهزوا الأوراق.
أوكي ميرسي بوكو.
ونأخذ الموعد من السفارة. نذهب من دمشقس إلى لبنان ومن ثم يحصل على اللقاء ويكون في بصمة.
Quand on a regroupé tous les documents pour la demande.
من شان الحصول على الفيزا.
On va à Beyrouth au consulat pour faire la demande de visa.
وبعدين يقولون بعد
et à partir de là, donc il recueille les données biométriques. On a des entretiens. On repart donc en Syrie.
Et
15 jours après, généralement, donc on reçoit donc une confirmation du retour de nos passeports à l'agence sous-traitante de visa, parce que ce n'est pas au consulat qu'on traite les dossiers. Généralement, mes camarades me donnent une procuration pour pouvoir récupérer tous leurs passeports. Je retourne de nouveau à Beyrouth pour récupérer les passeports. Je rentre et puis après on nous envoie les billets d'avion et on repart de nouveau à Beyrouth pour voyager, pour prendre l'avion, pour venir en France.
Une église à Strasbourg. Oui, à Strasbourg, près à côté allemand.
D'accord, près de l'Allemagne.
Oui, encore une église comme ça.
Ouais.
Oui, deux fois.
C'est beau.
Oui, très beau.
وكفايا قلبي انا من
كنا بالأول نحصل على الفيزا في دامس، هلأ صارت في بيروت، ما بين دامس وبيروت في حوالي ساعتين.
Ça a beaucoup changé, c'est beaucoup plus compliqué. Avant, nous soumettions nos demandes de visa au consulat à Damas. On voyageait depuis Damas, mais maintenant, on doit aller à Beyrouth pour faire les demandes de visa et pour voyager.
Ou أحيانًا أكثر حسب العجقة واللي على الحواجز في حواجز للجيش كتير.
Donc il y a à peu près 60 km, il y a 2 heures de route entre Damas et Beyrouth.
Deux heures,
dans l'absolu, mais sinon ça peut durer beaucoup plus longtemps en fonction des checkpoints, en fonction des contrôles militaires, des fouilles. Donc des fois ça dure beaucoup plus longtemps. Donc quand on va pour nos rendez-vous de visa, ça peut aller assez vite parce que nous n'avons pas de bagages, mais le jour du voyage, nous sommes obligés de bien anticiper. On nous fait ouvrir nos bagages à chaque contrôle et tout ça, donc ça peut durer très longtemps. Donc on anticipe pour ne pas rater le voyage.
Ah ben ils sont contents quand ils arrivent, ouais, ça c'est sûr, ça se voit tout de suite. Non mais c'est à plus forte raison quand effectivement ils doivent faire de multiples allers-retours, être accueillis pas toujours très chaleureusement dans les administrations. Oui non, il nous est arrivé effectivement d'avoir des retours de leur part effrayés, on peut le dire, souffrance pour avoir attendu, avoir ça c'est vrai qu'il y a des pays où ça arrive assez régulièrement, on les fait attendre un temps important quoi et revenir, il y a un rapport humain qui est pas toujours vraiment très très respectueux, donc ben pour eux c'est une épreuve à part entière, oui c'est forcément comme ça pourrait l'être pour tout le monde et ça ils s'en accommodent pas hein, c'est normal et... Donc non, c'est une difficulté pour tout le monde, effectivement, d'avoir à obtenir ce visa.
Bonjour. Bonjour.
Donc on est le groupe de musique.
Ouais. Vous avez donc les...
Quatre twins et deux singles avec des Syriens.
Voilà, bonjour. Donc demain, vous prenez un petit déjeuner.
Ouais, c'est quelle heure à quelle heure?
7h-10h.
Ouais.
Ça va aller?
C'est parfait.
Alors donc c'est parti. Donc, alors,
les artistes... Pour certains, des fois c'est une première. Généralement, on fait quand même le plus gros du travail. Quand ils se présentent au consulat, généralement, ils ont tout ce qu'il faut. Parfois, ils nous disent que les agents ne leur ont même pas posé de questions. On réceptionne le dossier et ça s'arrête là. Parfois, quand les personnes sont, voilà, soit ne savent pas écrire ou ne savent pas parler la langue ou autre... Dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a un interlocuteur sur place qui les accompagne et qui gère pour eux.
Hamdi et Hassan.
Il y en a qui,
Adèle.
Du coup, acquièrent une certaine expérience et se débrouillent de mieux en mieux. Il y en a qui établissent de bons rapports avec les agents sur place, qui reviennent assez souvent, etc. Donc, parfois, on a de bonnes surprises. On reçoit des visas plus longs que ce qu'on a prévu. Tout est possible.
C'est pareil. Prends celle-là, alors. Il est exigeant. Hein. 28. And breakfast from 7 to 10.
7. Moi, je voulais vraiment qu'ils se responsabilisent eux-mêmes. Ces musiciens qui viennent à l'étranger, qui ne dépendent plus de leur système hiérarchique sur place, peuvent... s'assumer eux-mêmes. C'est très important, je crois, qu'ils s'assument eux-mêmes aussi dans ce domaine, au même titre qu'ils ont créé des petites structures maintenant pour apprendre à leurs enfants aussi. Ils font des petits stages l'été, ils font des sortes d'écoles pour passer la tradition. Donc il y a une responsabilisation importante qui s'est faite de ces artistes, et c'est la seule manière pour eux de continuer à vivre dans ce monde qui va se durcir de plus en plus au Rajasthan et ailleurs, je pense.
Donc tu vois, Olivier, les robes, elles vont faire 2 mètres de chaque côté, donc il faut que tu imagines un cercle de 4 mètres pour régler la lumière.
Donc je vais prendre plus large.
Ouais.
Et au niveau de la conduite, en fait, c'est comme ça qu'on peut faire. Je sais pas, vous, comment ça va se passer, en fait, au niveau au début, quand il n'y aura pas encore la pénombre dehors. Donc on n'éclaire pas le plateau.
Du tout.
Quand les derviches sont pas là, c'est pas utile. D'accord. Juste la lumière. En fait, les derviches sont assis. Ça va jouer pendant... chaque morceau dure 10-15 minutes. Et à un moment donné, ils vont se lever. Il n'y a pas besoin d'être hyper réactif, ils vont se lever tranquillement. Et là, généralement, moi, je fais éclairer le plateau. Voilà. Donc, tu as le plateau parce qu'ils vont circuler, ils vont venir là, ils vont saluer, ils vont se mettre dans l'autre sens, ils vont saluer. À un moment, ils vont se mettre sur leur rond. Ils vont commencer à tourner. Donc, généralement, on éteint le plateau.
Donc, j'allume un peu quand ils arrivent, quand ils s'assoient, léger.
Voilà. Le but du jeu, c'est que tu allumes à l'endroit où il y a quelqu'un,
oui,
et que tu n'éclaires pas. Mais bon, je te prends pas.
Ouais, là, par exemple, quand on pense le matin, qu'on se réveille et qu'on fait la régie pour un groupe,
à tout, en fait, c'est vraiment la gestion du quotidien. C'est plein de petits trucs qui font que j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure au téléphone avec Mounet, parce que je me trouvais bien fatigué alors qu'il y a entre guillemets pas grand chose à faire, quoi. On a toujours une dose de stress en disant, tiens, demain, faut bien que je leur dise qu'on se lève à 3h30 du matin, que le voyage va durer 12h, etc., etc. Qu'on fasse attention au petit-déj, qu'on va repasser dans les chambres. C'est vraiment une attention de chaque instant, quoi. Il faut. Ouais, je suis un peu là. T'es le psy, la nounou, le grand frère, le petit frère. C'est un peu tout, quoi. Le boss ou l'esclave, ça dépend.
Et qu'est-ce que vous avez fait hier, après qu'on vous ait laissé à l'hôtel?
Alors, hier.
C'est loin?
On n'a pas fait grand chose. Si, on est allé manger tous ensemble dans un kebab, très original, halal bien entendu, ça c'est important, parce qu'ils amènent en fait leur nourriture la plupart du temps, pour être autonome et parce que ça coûte moins cher. Et du coup, de temps en temps, on se paye un kebab. Ils m'ont offert le kebab hier, donc c'était quand même un grand moment. Et puis après, retour dans les chambres, et puis... ils ont fumé la chicha, ils ont joué aux cartes. Je suis passé un peu dans leur chambre, justement. Et puis ils ont fumé bien la chicha, parce que ce matin, dans l'hôtel, ça sentait bien la chicha.
Ils étaient très préoccupés par le code Wi-Fi.
Alors ça, effectivement, c'est primordial. Quand on arrive dans un lieu, c'est de trouver le code Wi-Fi, tout simplement parce qu'ils communiquent avec la Siri via Viber ou WhatsApp ou d'autres applications. Et du coup, pas d'internet, quoi, pas de wifi, pas de communication à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Donc quand on arrive à l'hôtel, c'est le premier truc, quoi.
Pour ce qui est des Syriens de façon spécifique, ils continuent leur vie en Syrie, à Damas, tant bien que mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile pour eux de partir et c'est très difficile aussi d'y rester. Dans le groupe, il y avait des personnes qui avaient quitté la Syrie, qui se sont installées depuis peu en France, et d'autres qui y sont encore, qui songent à partir aussi. Voilà, ça va dépendre un peu des événements. Ils ont quand même des familles assez nombreuses, donc c'est difficile aussi de quitter la famille en solo. C'est un peu compliqué quand même hein, de s'installer. Donc, ils sont obligés, en fait, d'une certaine façon, de faire abstraction à un moment donné de ce contexte-là, d'une part pour continuer leurs activités artistiques, même si ces activités-là sont une activité secondaire, parce qu'ils ont eux-mêmes d'autres activités, ils ont leur activité principale, il y en a qui sont enseignants, voilà, il y a toutes les professions. Donc, ils ont besoin de cette activité artistique, ne serait-ce que financièrement, mais ils ont besoin aussi de ce souffle. En fait, c'est ce qu'ils m'ont dit, que partir pour une tournée à l'étranger, en Europe, malgré le contexte dans lequel ils vivent là-bas en ce moment, pour eux, c'est une bouffée d'oxygène. Ils ont du mal, hein, ils ne déconnectent pas du tout. Hein, ils sont avec les réseaux sociaux, ils arrivent à être constamment en contact avec leur famille en Syrie. Mais voilà, ils profitent aussi de ce moment de tournée comme d'un temps d'accalmie, croire que la vie peut continuer un peu comme avant. من كل شيء أعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا تسلم دعاني لبيته تحدي باب بيته وما تجلى بالدمع ناجيت وما تجلى
شو جهازك أحمد؟
يا زلمه رجت لك شو حلوه الضحكه
بس رجت
يا حلوه
واحده جديده
يلا
يلا يلا شباب
يلا
تعال معي
تعال معلي
هسي
شكرا
ثانك يو
هروين هروين لايك هروين
هذا
Il y a une méfiance, de la peur d'artistes qui après ensuite s'intéressent au territoire français. En fait, il y a ce qu'ils appellent les pays à haut risque, qui sont généralement le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Et je sais que même très souvent, en passant par la scène de la musique, pour organiser des concerts notamment de musique africaine, on a eu beaucoup de difficultés auprès des consuls. Et on a obligé de se référer en haut lieu pour obtenir les visas. Il y a une résistance très forte qui se fait au niveau du consul qui normalement a le droit de refuser lui-même sans, je crois, passer forcément malgré l'opinion de l'ambassadeur. Il a le droit en tant que lié au ministère de l'Intérieur de refuser sans un visa. Et on a été obligé d'exercer énormément de diplomatie, de pression, souvent, pour obtenir des visas types. Il y a une sorte de méfiance du phénomène d'immigration. Quelques mauvais exemples, effectivement, ont alimenté certains dossiers. Notamment, c'est vrai qu'on a eu c'est négligeable, c'est-à-dire sur peut-être 600-700 musiciens qu'on a fait venir, il y en a un ou deux qui, effectivement, se sont installés en France, notamment du côté Cambodge, où c'est arrivé aussi une fois avec un pays africain. Mais c'est des phénomènes très très rares et qui ne justifient pas évidemment cette défiance. C'est un marché très important. Le marché des festivals de musique du monde est un très gros marché qui a des répercussions touristiques, qui a des répercussions économiques pour les villages, les endroits où ont lieu les festivals, les résidences. Donc c'est vrai que c'est assez incompréhensible, cette espèce de défiance. D'autant plus que, mise à part peut-être le 1%, tous les artistes traditionnels n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux après. Ça, j'ai eu l'habitude, parce qu'ils ont leur famille, leurs enfants, et ils n'ont absolument aucun désir de s'installer en France. C'est bien leur dernier de leurs soucis en général, parce qu'ils sont dans des systèmes communautaires dont ils dépendent et dont ils ont besoin. Et ils sont très, en général, attachés à leurs racines et n'ont pas du tout cette attiration un peu artificielle de l'Occident. Ils ont déjà dépassé ce stade-là, je veux dire.
C'est arrivé qu'on nous demande des comptes pour des membres de famille d'un des artistes qui sont venus en Europe ou en France
dans un cadre familial, privé, et nous demander à nous des comptes quand on s'adresse au consulat pour faire une demande de visa pour un artiste. Et là, effectivement, nous avions réagi très fortement en disant « mais cette personne-là est venue dans un cadre privé, ça ne nous concerne pas ». Enfin, c'était une personne qui est venue rendre visite à son fils et qui est tombée malade et qui est restée pour des raisons de santé. Puis finalement, on a réussi à avoir le visa, donc il n'y a pas eu de souci. Mais nous nous sommes quand même retrouvés dans une situation à devoir transmettre les documents qui justifiaient de la présence du membre de la famille en France pour des raisons médicales. Voilà, ça nous a fait rentrer un peu dans l'histoire de cette famille sans qu'on l'ait voulu. Parce qu'il y avait un peu un soupçon de voyage, un prétexte illégal, etc. Mais enfin, il y en a qui appliquent les règles de façon très, très pointilleuse, qui vont demander à la production de garantir que les personnes vont rentrer chez elles et qu'elles vont repasser par le consulat pour à leur retour, pour s'assurer qu'ils sont bien rentrés dans le pays. Effectivement, il y en a qui vont pousser jusque-là, quoi. Alors que, bon, nous, on n'est pas derrière les artistes, on les accompagne effectivement depuis leur arrivée jusqu'au retour, mais ce sont quand même des personnes adultes et libres, hein, donc.
Prends la 10 alors, Victor.
Quand Pascua est arrivé, c'est là où il y a un durcissement, c'est-à-dire pour l'obtention des visas, qui est très difficile. Bon, il y a eu deux facteurs. D'abord, le premier, c'est qu'à l'époque, il y avait une sorte de tolérance vis-à-vis de la notion d'emploi, de salaire. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de montrer un contrat comme quoi on était employeur d'un artiste. Et à l'époque encore, la plupart des structures culturelles faisaient elles-mêmes des contrats directs avec les artistes et avaient véritablement le rôle d'employeur. Rôle qu'elles ont très vite abandonné, vu la difficulté des procédures, et qu'elles ont délégué justement à des maisons de production, à des tiers, qui sont responsables, en fait, de prendre en charge cet aspect administratif. Et très vite, on s'est retrouvé dans la situation où il a fallu justifier par un contrat de travail, la venue d'artistes, qui n'était pas le cas avant, où il y avait une sorte un peu de tolérance à ce sujet, particulièrement pour des musiciens traditionnels qui, on savait, n'étaient pas forcément dans une représentation d'un statut professionnel dans leur propre pays. Il y a 5-6 ans, on avait fait un hommage aux Kurdes à la Cité de la Musique et j'avais fait venir 2-3 femmes paysannes kurdes et le consul les a forcées à chanter devant elles pour prouver qu'elles étaient bien des chanteuses.
Non. Je leur dis ce qu'ils veulent alors. Elle est à 5 minutes.
Oui, c'est bien, c'est la continuité, c'est bien.
C'est vrai qu'avec le temps, on connaît un peu les rouages des administrations françaises à l'étranger, l'administration en France. Mais néanmoins, c'est un vrai problème parce qu'il y a une véritable obstruction. Les démarches administratives que l'on doit effectuer et toutes ces, chaque fois, ces incertitudes pour ce qui est de la circulation d'artistes, quand même, sont très importantes. On ne devrait pas avoir autant de difficultés à faire voyager des artistes. C'est des principes que la France devrait avoir, hein, que le gouvernement devrait adresser dans ses ambassades. Alors il y a eu des directives de Fabius pour faciliter la circulation des artistes en délivrant des visas de circulation, mais c'est pas des mesures qui sont adoptées par tous les consulats. Du coup, c'est vrai qu'à notre niveau, c'est un temps de travail qui est beaucoup trop important. En fait, on aimerait bien plus s'occuper d'autres choses, trouver d'autres concerts, de réfléchir à d'autres créations, de prendre le temps de s'attacher davantage à l'artistique. Mais ces formalités de circulation occupent une grande partie de notre travail et c'est un frein.
Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a donné envie d'arrêter ce métier à un moment, c'était vraiment ce problème des divisions. Parce que c'est quelque chose de très humiliant, parce qu'on a l'impression qu'on est, mis en tort. On nous culpabilise sur ce qu'on fait. Je pense à ces pauvres musiciens qui sont des gens simples, qui ne demandent qu'une certaine forme de respectabilité, de reconnaissance, qui sont obligés de passer par tout ce processus, ils ne comprennent pas pourquoi on les invite et qu'on les traite comme ça très souvent.
Moi, à mon niveau, bizarrement, ces dernières années, ça devenait de plus en plus simple. Peut-être c'est notre expérience aussi qui nous permettait d'éviter tous les écueils, d'avoir des dossiers admissibles au visa sans souci. Et les consulats souffraient de plus en plus, aussi parce qu'ils déléguaient beaucoup le traitement des visas à des sociétés externes. Donc c'est presque devenu plus facile de contacter les consulats, les services des visas directement en cas de souci. La communication est devenue un peu plus facile avec les consulats. L'accord des visas pour les artistes est devenu assez systématique. Ces dernières années, ça commençait à être plutôt fluide. Et puis là, avec l'afflux des demandes de réfugiés et autres pour certains pays, on sent qu'il commence à y avoir des petites crispations, ne serait-ce que des embouteillages. Donc,
Ainsi, la circulation dans l'espace Schengen devait se compliquer. Ce serait une véritable obstruction, en fait, aux tournées des artistes extra-européens pour des raisons économiques et pratiques. Ce serait vraiment très, très grave, en fait. C'est un grand coup porté à la diffusion culturelle. On le redoute. Donc, on suit ça de très près.
C'était Visa pour jouer. Avec Mouné Ahmed, Jean-Hervé Vidal, Alain Weber et Ananda Garcia. Merci à la Chapelle Corneille de Rouen, au Musée du Quai Branly et au Théâtre de la Ville. Prise de son, Yves Lehors, Pierre Quintard et Étienne Leroy. Mixage, Jean Richard Dufour. Stagiaire, Maroussia Grain. Musique, Divana et l'ensemble Noureddine Kourchid et les derviches tourneurs de Damas. Attaché d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omilianenko. Un documentaire de Charlotte Rouault et Benoît Bory, réalisé par Christine Robert pour Sur les Docs.
La série documentaire C'est tout nouveau, mais pour aujourd'hui, c'est terminé et c'est tamponné et visé par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous voulez aller plus loin, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour passer la frontière ou nous réécouter à la douane, et bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Demain, troisième étape, voyageurs de la Manche, comment j'ai tourné autour de l'idée de la frontière franco-britannique. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.